Bonjour, ici Jan Steele, alias La Goose. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôte 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie et maman de deux enfants qui, eux aussi, mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y! Les fameuses traces éventuelles de gluten. Notez bien, toutes les références des essais cliniques et de la recherche mentionnées se trouveront dans les notes de l'épisode. En tant que malade cœliaque, notre réalité nous pousse à naviguer en permanence entre une rigueur salutaire et une rigueur excessive qui vire à l'obsession. Des petites quantités de gluten peuvent nous rendre malades. Mais puisqu'il s'agit d'une maladie auto-immune, le stress aussi a son rôle à jouer. Depuis quelques années, il y a une recrudescence de conseils de plus en plus dogmatiques qui, à mon sens, ne sont pas toujours raisonnables ni bénéfiques. Un parfait exemple tourne autour de cette fameuse phrase « trace éventuelle de gluten ». L'incidence croissante des allergies alimentaires et leurs conséquences sur la santé ont amené les pouvoirs publics à instaurer des mesures d'information du consommateur. Depuis un bon moment, en tout cas dans les pays occidentaux, tout produit pré-emballé qui contient l'un des 14 allergènes majeurs, dont le gluten, doit signaler sa présence par le biais d'une référence claire au nom de l'allergène. En Europe, cela se traduit par une signalisation dans la liste des ingrédients, de l'ingrédient problématique écrit dans une police en gras, ainsi qu'une mention éventuelle de l'allergène à la suite de la liste des ingrédients. Mais les règles d'étiquetage ne concernent que les ingrédients introduits volontairement par le fabricant dans la recette du produit. Alors que la présence accidentelle du gluten, c'est-à-dire la contamination involontaire par contact avec d'autres produits sur la chaîne de fabrication, lors du stockage ou du transport, n'est pas impossible. D'où ces produits qui, dans leur liste d'ingrédients, ne signalent aucun ingrédient contenant du gluten, mais qui affichent à la suite de la liste d'ingrédients une phrase du type « trace éventuelle de gluten »,« peut contenir le gluten »,« susceptible de contenir du gluten ». Moi qui suis cœliaque depuis les années 70, j'avoue que s'il y a eu une grande amélioration au niveau de l'étiquetage tout au long de ma vie, afin d'informer au mieux le consommateur à sensibilité alimentaire, il est vrai que cette phrase vient brouiller les pistes. Depuis, allez, 10 ans, nous avons tous vu se multiplier les produits sur lesquels viennent apparaître ces phrases frustrantes, sur des paquets de bonbons, des glaces et même sur des paquets de riz ou des légumineuses. Quelle en est l'explication? Et quel est le niveau de risque réel pour une personne cœliaque qui oserait consommer ces produits? Ayant échangé sur le sujet avec beaucoup de cœliaques au cours de ma vie, je sais qu'il y a des personnes cœliaques qui évitent ces produits à tout prix en imaginant qu'ils les rendront certainement malades. D'autres n'en tiennent absolument pas compte en présumant qu'il ne s'agit là que d'une tentative par les industries agroalimentaires d'ouvrir un parapluie et se protéger de la responsabilité vis-à-vis d'un client allergique dans le cas d'une éventuelle réaction. À lire des commentaires sur différents groupes sur Facebook, il n'y a même pas de consensus auprès des médecins et des gastro-entérologues, car les conseils varient vachement. Alors, comment savoir? La position de l'AFDIAG est qu'il faut s'abstenir d'acheter des produits affichant des traces éventuelles. Mais l'AFDIAG vend aussi la licence qui permet à ce qu'un produit porte le logo de l'épibarré. C'est un discours donc assez logique que de vouloir dissuader les adhérents d'acheter des produits sans logo de l'épibarré, tout en espérant motiver les industries agroalimentaires à acheter la licence du logo pour leurs produits conformes. La position de l'AFDIAG ne me convainc donc pas. C'est aussi intéressant de noter que, selon la loi, certains produits qui sont, et je cite, « sans gluten par nature », ne peuvent pas être porteurs du logo de l'épibarré. à savoir des céréales et légumineuses non transformées, des viandes, des légumes, des fruits purs, certaines boissons, sucreries et assaisonnements. Et ce sont très souvent ces produits-là qui vont afficher des traces éventuelles. Pour moi, la vraie question est, lorsque nous parlons de traces, est-ce que nous imaginons qu'il s'agit là d'une quantité supérieure aux 20 parts par million qui sont de toute façon permises pour un produit étiqueté sans gluten? Car afin qu'un produit puisse être étiqueté sans gluten, il ne doit pas contenir plus de 20 parts par million de gluten dans des analyses. Mais jusqu'à 20 parts par million, c'est bon. C'est-à-dire que même dans un produit étiqueté sans gluten, une toute petite quantité de gluten peut s'y retrouver. Deuxième question. N'y aurait-il pas un risque du coup que toutes ces toutes petites quantités de gluten dans des produits étiquetés sans gluten puissent se cumuler et dépasser les 20 parts par million? Est-ce qu'une personne cœliaque qui consomme un certain nombre de produits industriels sans gluten ne pourrait pas finir par consommer plus que 20 parts par million si elle consommait au fil d'une même journée un certain nombre d'aliments industriels étiquetés sans gluten? C'était la question qui a poussé des chercheurs finlandais à se pencher sur la question en 2004. Analysant plus de 50 produits étiquetés sans gluten ainsi que plus de 20 produits à base d'amidon de blé, ils ont trouvé que bon nombre des produits étiquetés sans gluten, comme tous les produits à base d'amidon de blé, contenaient des quantités variables de gluten. Et étonnamment, ils ont trouvé que bon nombre des produits étiquetés sans gluten contenaient même plus que les 20 parts par million permissibles pour l'étiquette de l'épi barré. Bon, pour moi, la seule conclusion à tirer en vrai est que lorsque nous consommons des produits industriels, qu'ils soient étiquetés sans gluten ou pas, nous risquons de consommer une quantité variable de gluten, aussi petite soit-elle. Maintenant, est-ce que cette quantité variable de gluten va déclencher des symptômes et ou entraîner des dommages au niveau des intestins? En 2007, d'autres chercheurs, cette fois aux États-Unis, ont tâché d'établir un seuil de tolérance de gluten qu'une personne atteinte de la maladie cœliaque pourrait ingérer sans danger. Dans un essai clinique à plusieurs groupes, pendant 3 mois, un premier groupe de cœliaques a consommé 0 mg de gluten au quotidien, un deuxième groupe a consommé 10 mg de gluten au quotidien, et un troisième groupe a consommé 50 mg de gluten au quotidien. Au final, seul le groupe ayant consommé 50 mg de gluten au quotidien a présenté des symptômes et des dommages au niveau des intestins. Ils en ont donc conclu que pour bon nombre de malades cœliaques, un seuil de tolérance de jusqu'à 10 mg de gluten par jour, même sur le moyen terme, ne déclenchera pas de symptômes ni des dommages au niveau de l'intestin grêle. Et c'est le seuil qu'utilisent la plupart des experts du sujet dans le monde occidental aujourd'hui. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé « Sans gluten intelligemment » est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Gousse. Bon, si je comprends l'envie scientifique de connaître un seuil de tolérance, d'un autre côté, il y a sans doute peu d'intérêt à chercher à frôler sa limite avec régularité. À mon avis, les conséquences de la maladie sont juste trop importantes et, soyons francs, trop désagréables. Mais je sais aussi que l'un des éléments déclencheurs de la maladie auto-immune, dont la maladie cœliaque, c'est le stress. Il faut donc savoir trouver un juste milieu entre un laisser-faire qui finira par nous voir contaminés et une recherche obsessionnelle d'une source éventuelle de gluten motivée par la peur. En tout cas, le fait de savoir qu'un seuil de tolérance de 10 000 g de gluten par jour a été testé, cela me permet personnellement de relativiser le problème des étiquettes montrant les traces éventuelles de gluten. car pour ma part, je mange très peu de ces produits et je mange très peu de produits industriels sans gluten. Me voilà donc renforcée dans mon désir d'encourager les gens à manger surtout ces aliments qui sont naturellement sans gluten, les fruits, les légumes, les viandes pures, car le risque pour ces aliments-là est proche de zéro. Jamais mes carottes ne porteront le logo de l'épibaré. Et pourtant, elles seront toujours 100% sans gluten. Après, si l'on veut consommer parfois des aliments à base de farine, sans gluten, s'entend, il vaut mieux faire ces produits soi-même afin de contrôler au maximum le risque de contamination et aussi la qualité nutritionnelle de ces produits. Et en dernier recours, lors d'un voyage ou ponctuellement pour la facilité qu'ils peuvent offrir, un produit industriel sans gluten peut dépanner. Mais arrêtons de nous obnubiler avec les produits affichant les traces éventuelles de gluten, car même les produits étiquetés sans gluten, ces produits pour lesquels il existe un remboursement partiel grâce aux efforts de l'AFDIAG, comportent un risque d'ingestion de gluten. Mais, comme le montre la recherche, à moins de dépasser un seuil de 10 mg de gluten par jour, la probabilité que vous serez malade est très très faible. L'objectif de bien détailler l'étiquetage alimentaire est d'aider les consommateurs allergiques à adhérer au mieux à leur régime d'éviction, et non de les exclure d'une plus large gamme de produits pré-emballés. Et rappelons-nous que la maladie cœliaque n'est pas une allergie, c'est une maladie auto-immune et le phénomène est donc différent. Nous avons la chance en France d'avoir accès à des producteurs de produits de grande qualité. Profitons-en. Quand il s'agit des céréales, par exemple, pour ma part, j'identifie autour de moi les produits dont je peux être sûre de la provenance. Mon riz, par exemple, vient de la Camargue. Mon sarrasin et mon sorgho, des producteurs locaux qui ne cultivent pas d'autres céréales. Il est important de lire les étiquettes lorsque nous vivons avec la maladie cœliaque. Mais le stress que peut engendrer cette hypervigilance des produits affichant des traces éventuelles de gluten est, à mon avis, contre-productif. Et vous, qu'en pensez-vous? D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger des réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien.